Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, au Nord Kivu, l'année scolaire 2025-2026 est perdue pour des élèves de plus de 30 écoles de Masisi. En cause, la crise sécuritaire a contraint plusieurs établissements à cesser de fonctionner. C'est ce qui ressort du rapport de la coordination de la société civile de Katoï. À la une également, ses réactions après les incidents qui ont émaillé la manifestation de l'opposition hier vendredi à Kinshasa. Plusieurs organisations des droits de l'homme dénoncent un usage excessif de la force et réclament une enquête indépendante. Avec notre invité, Maître François Okonda, avocat au barreau de Kinshasa Matete, nous allons nous pencher sur la fixation de la garantie locative, domaine à la base des tiraillements entre bailleurs et locataires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, la crise sécuritaire dans les territoires de Masisi a contraint une trentaine d'écoles primaires et secondaires à fermer, privant des milliers d'enfants l'accès à l'éducation. Ce bilan apparaît dans un rapport de la coordination locale de la société civile du secteur de Katoï, publié cette semaine à l'approche de la clôture de l'année scolaire 2025-2026. Plusieurs établissements ont été endommagés ou rendus inaccessibles par les affrontements récurrents opposant l'armée congolaise et les Wazalendo aux rebelles de l'AFC 123. Bernard Nyangui pour les détails.
Dans le seul secteur de Katoï, la société civile recense 10 écoles secondaires et 20 écoles primaires fermées ou inaccessibles. D'autres établissements situés dans le secteur de Sobanyungu et en chefferie de Baoundé n'ont pas non plus fonctionné depuis novembre 2025 en raison des combats qui ont marqué presque toute l'année scolaire dans cette partie sud du territoire de Masisi. Les autorités de la province éducationnelle Nord Kivu 3 confirment ce constat. Elles indiquent que quelques élèves finalistes du primaire, de la 8e de base et de 4e des humanités issus de certains établissements fermés ont été transférés vers des centres d'examen nationaux encore opérationnels dans la région. Les rares écoles restées ouvertes ont elles aussi fonctionné dans des conditions précaires. À Nyamaboko, Ufamando et aux alentours de Nyabiondo, Ngungu et Rubaya, les cours étaient régulièrement interrompus dès la reprise de combat, puis repris dans un climat d'incertitude et de forte anxiété. Cette crise dépasse largement le seul territoire de Masisi, rappellent les acteurs humanitaires. En février 2026, Longe Action Aid faisait état de plus de 431 000 enfants hors du système scolaire et de 1142 écoles fermées dans l'Assemblée du Nord Kivu.
Bernard Nyangui en ligne de Goma. Pendant ce temps, dans la région de Beni, le Parlement d'enfants s'est dit préoccupé par l'exploitation économique des enfants. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année. Selon son président, les autorités ainsi que les parents doivent redoubler d'efforts pour garantir la sécurité des enfants et assurer leur protection au sein des familles afin d'éviter de les exposer à des travaux dangereux ou inadaptés à leur âge. Georges Ngoumaïri, président du Parlement des enfants dans la ville de Beni, est au micro de Marc Marofimbo.
Cette situation semble être normale dans notre région parce que nous traversons une situation très difficile. Le droit de tous ces enfants est tellement violé parce qu'il y a la guerre. Et d'après les enquêtes que nous avons déjà menées, la plupart de ces enfants se sont déplacés. Certains de ces enfants, ce sont des orphelins. Et les orphelins des guerres suite à la situation que nous traversons ici, avec la situation des massacres, les autres qui ont fui l'M23, et ces enfants se retrouvent ici, ils semblent être seuls. Donc, nous appelons à toutes les autorités de s'impliquer dans la sécurité de notre région parce que s'il y a la sécurisation de toute la région, on ne va plus voir des enfants déambuler à ville. À tous les parents, de penser aussi aux droits des enfants parce que quand vous envoyez les enfants dans la rue, nous devons savoir que ces enfants sont exposés à plusieurs dangers. Parce que chez nous ici, il y a des cas de recrutement des enfants dans des groupes forces armées, il y a des cas de kidnapping. Alors pour que ces enfants ne puissent pas être exposés à ces dangers, vaut mieux les garder et les protéger à la maison.
Par ailleurs, 8 élèves, dont 4 garçons et 4 filles, ont été enlevés par la LRA, un groupe rebelle ougandais actif dans certaines zones du nord de la République démocratique du Congo. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 juin, lors d'une incursion de ces groupes armés dans la localité de Banda, située dans les territoires d'Ango, en province du Bawele. Face à cette situation, toutes les activités ont été suspendues. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Les habitants de Banda ont vécu une véritable nuit de terreur. Aux alentours des 2h du matin, des assaillants ont mené une violente attaque contre cette localité du territoire d'Ango. 8 élèves de l'enseignement de base, 4 garçons et 4 filles ont été capturés et amenés de force vers une destination inconnue. L'information est confirmée par Fidel Aningay, directeur de l'école primaire Banda.
Deux élèves de la 8e année d'éducation de base qui étaient le premier jour dans la passation de l'examen mais qui dînaient la nuit du 11 au 12 qui ont manqué leur examen du deuxième jour. Vraiment, nous regrettons, la communauté de Banda est en deuil.
Depuis cette attaque, toutes les activités socio-économiques sont totalement paralysées. Signe de la gravité de la situation, l'examen national de fin d'études de base n'a pas pu se tenir lors de la dernière journée de passation. Théo Zarbina, président de la société civile locale, interpelle les autorités.
Nous plaidons au gouvernement central de nous renforcer avec les éléments phares d'essai pour renforcer en effectif afin de sécuriser la population.
Une lueur d'espoir apparaît toutefois dans ce tableau sombre. Un jeune homme de 20 ans, également enlevé lors du raid, a été relâché dans la journée. Mais pour les 8 élèves toujours portés disparus, leur famille reste dans l'angoisse tout en gardant l'espoir de les retrouver vivants. Notons par ailleurs qu'un agent de la direction des recettes provinciales du Bas-Ouélé a été tué par ses assaillants au cours de ces incidents. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Et puis dans la province du Tanganyika, les habitants de la chefferie Tumwe, village Mugunga, retrouvent leur sérénité après des troubles survenus jeudi dernier à la suite d'un conflit coutumier opposant un chef désigné et un groupe de personnes qui se réclament de la lignée. Le bilan fait état de 2 morts et de blessés, rapportent des sources locales. Information confirmée par le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. Dox et Ale souligne qu'un nouveau chef coutumier a été finalement installé au village Mugunga après sa contestation par un groupe d'habitants qui ont été manipulés, ce qui a ramené la paix dans ce village du territoire de Nyunzu. Des détails avec Paulin Munanga.
D'après le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, le nouveau chef coutumier a été désigné légalement suivant la lignée des successions et après la consultation des notabilités. Après la mort du chef du village Mugunga, un intérimaire a régné pendant plus de 5 ans à la tête de ce village. À la suite de la désignation d'un nouveau chef coutumier, l'administrateur du territoire de Kalemi, accompagné des notabilités de cette contrée, sont allés installer le nouveau chef coutumier. Mais arrivé sur place, un groupe d'habitants a contesté sa désignation. C'est dans cette confusion qu'une bagarre a éclaté, indique Dox Eale, ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. Les coordonnateurs de l'association Umoja Ninguvu dénoncent cette situation et rappellent que les conflits de succession coutumière sont récurrents dans le Tanganyika. Nathan Mugisho.
Les conflits de succession dans le Tanganyika deviennent de plus en plus récurrents et ça cause trop de dégâts. On enregistre beaucoup des cas pour lesquels on ne sent pas l'implication ni des députés provinciaux ni des autorités provinciales.
Nous n'avons pas obtenu la réaction de l'autre camp qui conteste la désignation du nouveau chef du village Mugunga. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Retour au nord Kivu, dans les territoires de Beni où les conflits récurrents dans la pêcherie de Kiavinyonge liés à la gestion des activités de pêche sur le lac Édouard continuent de susciter des inquiétudes. Jeudi dernier, l'autorité provinciale a réuni tous les acteurs impliqués autour d'une même table. Objectif, bâtir un consensus inclusif, garantir la survie économique des communautés locales, protéger la biodiversité du parc national de Virunga, mais aussi contribuer à la restauration de la paix sociale, de l'ordre public et de la bonne gouvernance dans la pêcherie de Kiavinyonge. Une démarche qui passe notamment par la clarification des rôles et des compétences de tous les intervenants dans ce secteur. Plus de détails avec Marc Marofimbo.
Parmi les principales problématiques liées à la gestion de la pêcherie de Kiavinyonge, qui a fait déjà plusieurs victimes, figure notamment la surpêche, la pêche illicite, ainsi que l'insécurité persistante sur les eaux du lac Édouard. À cela s'ajoutent les tensions autour de la gestion des ressources halieutiques, en grande partie due à la pression démographique, alors que plus de 60% de la population locale dépend directement de la pêche pour sa subsistance. Autre défi relevé, l'octroi des permis de pêche par les gouvernements congolais dans une aire protégée, la délivrance et la gestion des plaques d'immatriculation pour l'identification des pêcheurs, la mauvaise gouvernance du comité des pêcheurs ainsi que la faible collaboration entre l'ICCN et les autres acteurs institutionnels. Mais surtout, une incompréhension persistante autour des mandats et des compétences de chaque intervenant continue d'alimenter les conflits. Pour y remédier, les parties prenantes ont convenu de renforcer la sensibilisation au respect des lois, de privilégier les dialogues et la collaboration et de promouvoir une pêche responsable afin de préserver les ressources pour les générations futures. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Je le disais au sommaire, les incidents survenus hier vendredi aux abords du palais du peuple à Kinshasa lors de la manifestation de l'opposition continuent de susciter des réactions. Plusieurs organisations de défense des droits humains en République démocratique du Congo comme à l'étranger dénoncent un usage excessif de la force et réclament en même temps l'ouverture d'une enquête indépendante. Elles appellent également les autorités à garantir les libertés publiques et à faire toute la lumière sur les violences qui ont émaillé cette manifestation contre la proposition de loi sur le référendum. Les détails avec Grâce Hamzati Masanzi.
Parmi les réactions, celle de la Voix des Sans-Voix. Dans un communiqué publié vendredi, l'organisation dénonce une répression qu'elle qualifie de musclée, sanglante et disproportionnée. La VSV fait état de plusieurs blessés et condamne également les actes de vandalisme visant notamment le siège de l'ECID, parti de l'opposant Martin Fayoulou. L'organisation s'interroge par ailleurs sur l'attitude des forces de sécurité accusées d'être restées passives face à certaines violences. Elle réclame l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités. Même préoccupation du côté de la nouvelle société civile congolaise. Elle condamne ce qu'elle considère comme des actes de brutalité policière contre les citoyens exerçant leur liberté de réunion et de manifestation. Elle demande la prise en charge des blessés, des sanctions contre les éventuels auteurs d'abus, ainsi qu'un dialogue permettant l'expression démocratique des divergences politiques. À l'international, Human Rights Watch est également monté au créneau. Sur les réseaux sociaux X, la directrice de la division crise, conflits et armes de l'organisation Ida Sawyer estime que les libertés d'expression et de réunion pacifiques doivent être pleinement respectées. Comme la Voix des Sans-Voix et la nouvelle société civile congolaise, Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à mener une enquête indépendante, impartiale et transparente sur les violences enregistrées lors de cette manifestation.
La répression de cette manifestation de la coalition C64 constitue un véritable recul de la démocratie, estime le parti politique Base Républicaine. Dans un communiqué parvenu ce samedi à Radio Capi, cette formation politique appelle les autorités judiciaires à se saisir de cette situation afin d'établir les responsabilités et de dissuader les fauteurs des troubles. La Base Républicaine plaide ainsi pour la cohésion sociale en cette période de crise multiforme qui secoue le pays. Blaise Ndonga Lamayanda, explication.
Pour le parti politique Base Républicaine, les incidents survenus lors de la manifestation de la coalition de l'opposition C64 méritent d'être élucidés et les responsabilités doivent être établies. Ces partis de l'opposition jugent impératif que toute la lumière soit faite sur ces événements, notamment sur les circonstances ayant conduit aux blessures des manifestants, des acteurs politiques et d'autres citoyens impliqués. Ils condamnent toute forme de violence ainsi que tout usage disproportionné de la force et les atteintes à l'intégrité physique des citoyens. La Base Républicaine rappelle également que les libertés publiques, notamment les droits de manifester pacifiquement, sont garantis par la Constitution et doivent être exercés dans le respect de l'ordre public, des lois de la République et des droits de chacun. Face aux tensions politiques actuelles, ces partis politiques réaffirment que la RDC a plus besoin de cohésion nationale que des divisions supplémentaires. C'est pourquoi ils continuent de plaider pour la tenue d'un dialogue républicain inclusif et consacré en priorité au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.
En Ituri, la forte mobilité des populations, liée notamment aux échanges commerciaux et à l'insécurité dans certaines zones, demeure l'un des principaux défis dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À cela s'ajoute l'absence de tests rapides permettant une détection précoce de la maladie. C'est ce qu'a déclaré Médecins Sans Frontières hier vendredi à Bounia lors d'un café de presse. Pour cette organisation humanitaire fortement engagée dans la riposte, la participation active des communautés reste essentielle pour soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires en vue de mettre fin à cette épidémie. Frédéric Manatsoa, coordonnateur des urgences de Médecins Sans Frontières en Ituri, est au micro d'Isaac Remoyopi.
Le mouvement de population au niveau d'Ituri, dû au conflit, mais aussi dû aux flux commerciaux, qui est très très élevé, où nous on attire un peu l'attention sur la complexité de la surveillance avec ces déplacements de population en Ituri et qu'il va falloir renforcer. Le deuxième défi qu'on a, c'est la surveillance. Comme l'épidémie avance très très vite, malgré les efforts et les moyens qui sont mis en place, pour nous MSF, l'implication de la population en soi est très importante. La population a un grand rôle à jouer en termes de collectivité, mais aussi individuelle en tant que quelques personnes. Si on est malade, bien, on va très vite à l'hôpital pour se faire soigner tout simplement. C'est pas seulement pour Ebola, mais pour tout. Un des défis également, c'est tout ce qui est au niveau test. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place, mais elle reste toujours derrière l'épidémie. Il y a beaucoup de patients qui attendent les tests. Ça prend 2 jours pour sortir. Non pas parce qu'ils font pas le travail, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cas. Donc, il faut continuer l'effort à avoir un peu plus de ressources en termes de testing.
Au Kasaï oriental, un dépistage général de la tuberculose est mené depuis mercredi dernier à la prison centrale de Mbujimayi. Cette opération, coordonnée par le Programme national de lutte contre la tuberculose, intervient après une hausse inquiétante des cas enregistrés ces derniers mois parmi les détenus. Cette prison compte 450 pensionnaires pour une capacité d'accueil de 150. Des explications avec Esther Dalafina.
Pour cette campagne, un dispositif médical complet a été installé à l'extérieur de la prison sous une grande tente placée sous haute surveillance. À proximité, un véhicule équipé d'un appareil de radiologie mobile permet de réaliser des clichés thoraciques pour les cas suspects. D'autres détenus sont soumis à des tests par analyse de crachat, une méthode essentielle pour confirmer la présence du bacille tuberculeux. Selon Dr Marcel Kazadi, coordonnateur provincial du Programme national de lutte contre la tuberculose. L'objectif est de détecter rapidement les cas positifs afin d'assurer une prise en charge efficace. Il précise que le dépistage concerne également le personnel pénitentiaire afin de limiter les risques de contamination et d'assainir l'environnement carcéral. Le coordonnateur salue la dotation en matériel envoyée par la coordination nationale depuis Kinshasa, un appui crucial pour renforcer la riposte. Rappelons que la tuberculose a déjà fait plusieurs victimes au sein de la prison centrale de Mbujimayi, ce qui rend cette opération de dépistage autant plus urgente. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après des jours d'attente et de spéculation, un premier avion transportant des migrants expulsés des États-Unis a atterri hier vendredi soir, 12 juin, à Bangui, en République centrafricaine. Cet accueil s'inscrit dans la stratégie de l'administration américaine visant à transférer certains migrants vers des pays tiers. Une opération menée en toute discrétion et dont les contours restent flous. Les autorités n'ont pas communiqué sur ce transfert. La République centrafricaine est le dernier pays africain en date à avoir accepté un tel accord.
L'invité.
Il s'agit de Maître François Okonda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il revient sur la problématique de la fixation de la garantie et des nombres de mois locatifs dans la ville de Kinshasa. Certains bailleurs fixent entre 5 et 7 mois de loyer et d'autres vont jusqu'à 10, voire plus, bafouant ainsi les dispositions réglementaires établies. Maître François Okonda s'entretient avec Jean-Marie Kanaimba.
Maître François, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le nombre de mois et la garantie que les bailleurs fixent posent un sérieux problème. Chaque bailleur fixe selon son bon vouloir et ça frôle de l'arbitraire. Que prévoit la loi sur cette matière?
En effet, depuis 2015, le législateur avait par sa loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au bois à loyer non professionnel prévu des mécanismes tendant à sécuriser d'une part les preneurs, c'est-à-dire la personne qui vient louer une maison d'autrui, et d'autre part faire en sorte que les propriétaires de la maison, communément appelés bailleurs, soient à l'abri de tout désagrément lié notamment au paiement de loyer tel que convenu. Le législateur a prévu notamment dans les articles 18, 19 et 20 de la loi précitée les modalités de paiement de la garantie locative. Conformément à ces dispositions, il est relevé que pour des maisons d'habitation, que le loyer soit fixé à 3 mois et que lorsqu'il s'agit d'une maison à caractère socio-professionnel, que la garantie puisse être fixée à 6 mois. Ce qui est déplorable, c'est que malgré les prescriptions légales impératives régissant ce secteur, nous sommes loin de sortir de tout ce qu'il y a comme désagrément. Parce que du jour au lendemain, vous avez des bailleurs qui perçoivent plus que ce qui est recommandé. Face à cette situation, seuls les pouvoirs publics peuvent en tout cas, dans la mesure du possible, réprimer ces actes que le législateur a érigés en infraction spéciale, parce qu'il a été prévu que lorsqu'une personne perçoit une garantie locative supérieure à celle fixée par la loi, nous sommes à l'article 39 de la dite loi, cette personne-là est passible d'une servitude pénale de 2 à 6 mois et ou d'une amende ou de l'une de ses peines seulement.
Pourquoi alors, à votre avis, ces bailleurs ne respectent-ils pas ces prescrits de la loi?
Si les bailleurs ne respectent pas la loi, c'est parce que nous avons comme la désagréable impression d'avoir un État, si pas défaillant, du moins presque exsangue, qui de fois ne comprend pas ce à quoi il est appelé. Parce qu'à partir du moment où il existe une loi bien promulguée, laquelle loi crée les dispositions légales étant très claires, il est juste question que les pouvoirs publics jouent leur partition pour que la loi soit respectée dans toute sa rigueur.
On se rend compte que la population reste vulnérable et victime. Que doit-elle faire pour entrer dans ce droit et précisément à quel type d'institution elle peut s'adresser?
En ce qui concerne par exemple les litiges entre bailleurs et preneurs, la loi voudrait que ces litiges-là soient portés à la connaissance de l'autorité compétente, en l'espèce dans une commune donnée au service de l'habitat, lequel service a pour compétence de procéder à la conciliation avant toute saisine de juridiction compétente.
Pour terminer, au regard de cet arsenal juridique confronté à l'arbitraire de bailleur, parce qu'il récidive quelquefois, quel conseil pouvez-vous donner à l'une ou l'autre partie?
Au regard de l'arbitraire qui règne, moi je pointe d'abord du doigt l'État congolais qui doit penser d'abord à mieux vulgariser la loi, parce que la loi, une fois vulgarisée, elle permet à quiconque de connaître ce droit. Il est des principes d'essence constitutionnelle que nul n'est censé ignorer la loi, mais que pour mieux connaître la loi, l'on se doit de la connaître dans toute son étendue afin de savoir protéger ces droits qui sont du reste consacrés. Et donc, un travail de sensibilisation doit être fait, un travail de suivi ou de l'applicabilité des dispositions légales impératives doit également être fait par les services publics pour permettre que la loi, une fois mise en application, permette à chacun de vivre en toute sa quiétude. Parce qu'une loi, bien que promulguée, elle ne sert du tout pas à quelque chose lorsque ses destinataires ne la connaissent pas ou lorsqu'elle n'est pas d'application. On ne promulgue pas une loi pour la garder dans ses tiroirs et faire d'elle une chasse gardée d'une poignée dérisoire d'individus qui aient fait des études de droit. Une loi promulguée doit faire l'objet de sensibilisation de toutes les couches de la population.
Merci d'avoir répondu à notre question.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Maître François Okonda, avocat au barreau de Kinshasa Matete, était notre invité. Il s'entretenait avec Jean-Marie Kanaimba. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Bonsoir chez vous.